Retrouvez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie tous les samedis et dimanches de 15h à 16h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Bonjour. Le reportage de guerre a toujours représenté l'extension la plus noble du journalisme, greffée de tous les fantasmes, car induisant le dépassement de soi et le contrôle absolu de ses peurs dans le chaos des guerres. C'est donc bien une héroïne que je reçois aujourd'hui, même si j'en suis sûre, elle déteste ce terme. La Libye, la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, Daesh, mais aussi l'éclatement de l'URSS, l'enfer de Sarajevo. Martine Laroche-Joubert a tout traversé avec l'envie insatiable de comprendre ce monde, notre monde, et de témoigner. Elle fait paraître au Cherche Midi une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. Je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Martine Laroche-Joubert.
Bonjour.
Martine Laroche-Joubert, vous avouez dans ce livre un goût viscéral, quasi animal, ce sont vos mots, hein, pour tout ce qui ressemble en fait à un départ vers l'ailleurs. Mais votre ailleurs à vous, depuis 33 ans, c'est celui des obus qui pleuvent, de l'odeur du sang et de la poudre, bref, du chaos des guerres. Pourquoi cette fascination pour le danger qui ressemble presque à un appel ?
Fascination pour le danger, en tout cas, appel de l'ailleurs, ça c'est sûr. Et je pense que l'appel de l'ailleurs, je le dois à ma toute petite enfance, parce que j'ai passé ma toute petite enfance au Maroc, à Chichawa, dans le désert, etc. Ouais. Avec le vent, la langue des berbères, les scorpions dans les cercles de feu qui se mordaient eux-mêmes avant de périr carbonisés, ils préféraient ça. Donc je pense que c'est... Voilà, l'appel de l'ailleurs, je le dois vraiment à ma petite enfance et à cette espèce de sensation d'ivresse que j'avais, de liberté... que j'avais au Maroc. Et puis après, je me suis longtemps ennuyée, longtemps. Je me suis ennuyée pendant toutes mes études chez les sœurs. Je me suis ennuyée en droit, je me suis ennuyée à Sciences Po. Mais je lisais beaucoup. Enfin, je m'ennuyais dans la vie réelle, mais je m'évadais dans les rêves, dans les films et tout ça. Et puis j'ai commencé à être journaliste, vraiment dilettante. Et... finalement, j'ai commencé à accrocher à mon métier au moment où j'ai été plongée dans des circonstances difficiles. Quand, par exemple, j'ai commencé à faire des reportages clandestins, ce que j'appelle clandestins, c'est-à-dire que je reprenais mon nom de jeune fille pour l'occasion et j'allais dans des pays où on ne donnait pas de visa aux journalistes. Par exemple, j'ai couvert l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid et ils ne donnaient pas de visa à des journalistes d'Antenne 2. Et puis après, j'ai couvert l'URSS. En me faisant passer pour une employée de la SNCF, etc. Bon, pour couvrir, par exemple, des sujets que je savais que je ne pourrais pas couvrir si j'avais un visa officiel, comme par exemple le sort des réfouzniks, des juifs qui demandaient donc des visas de sortie pour aller en Israël. On le leur refusait, ils perdaient leur boulot. Comme c'était interdit de perdre son boulot, ils acceptaient n'importe quel emploi, alors qu'ils étaient chercheurs, docteurs en sciences, etc. C'était des reportages il m'est arrivé d'être arrêtée par le KGB. C'était des reportages risqués, pas parce qu'il y avait des bombes, mais tout simplement parce que je pouvais être arrêtée. Et je l'ai été. J'ai appris à nier l'évidence dans ce genre de situation. Le métier me semblait intéressant. C'était compliqué parce qu'il fallait que je pouvais pas téléphoner aux gens que j'allais voir, qui étaient souvent des opposants. J'avais un carnet dans lequel je notais leurs adresses, mais avec des codes très compliqués. J'en faisais des cauchemars la nuit, que j'oubliais mon code, etc. Et puis, après, je suis allée en Haïti, en 1987, où là, c'était extrêmement violent, parce que Baby Doc, le fils de Duvalier, venait de partir, mais les tontons Macoute voulaient empêcher les élections libres. Et devant nous, ils ont découpé des gens à la machette. D'ailleurs, le scrutin a été annulé. Et dans ce genre de circonstances, j'étais avec un caméraman, Jacques Douai, qui connaissait bien le pays aussi. Et dans ce genre de circonstances, j'ai vu que j'étais capable de faire des reportages intéressants, inédits, que je ne cédais pas à la panique. Et là, je me suis sentie légitime. Voilà. J'ai eu une impression de légitimité que je n'avais pas quand je couvrais, par exemple, des sujets d'information générale, comme l'enlèvement du baron Empain, etc. Quelqu'un d'autre aurait pu le faire aussi bien et même mieux que moi. Là, j'ai senti que je pourrais peut-être faire de bons reportages.
Alors, votre fille, Alexia Laroche-Joubert, avait 14 ans, je crois, et votre fils Constant, à peine 2 ans que vous êtes devenu, donc... reporter de guerre de manière officielle. Mais avec quel mot explique-t-on à une adolescente qu'on la quitte pour partir sous les bombes ?
Franchement, les enfants, ils posaient très peu de questions. Ils ne m'ont jamais retenue. même quand Constant était tout petit, quand il avait un an et demi, deux ans, je le vois encore. Il me dit au revoir, je partais pour l'Afghanistan, c'était compliqué. Là-bas, on ne pouvait pas téléphoner à l'époque, il n'y avait pas de portable. C'est vraiment difficile. Et les deux, je crois qu'instinctivement, ils ont compris qu'il fallait me laisser faire. Que c'était pour moi vital d'aller sur ce genre de terrain où il y avait une telle intensité.
Il n'y avait pas un homme à cette époque-là de votre vie qui tentait de vous en dissuader, de vous retenir, Martine Larjoubert ?
Pas du tout. Personne ne m'a retenu. Peut-être que personne. Ni mes enfants, ni les hommes avec qui j'ai vécu, ni même mes parents. Mais franchement, je leur ai posé la question plusieurs fois. Je crois que ça aurait été vraiment difficile s'ils étaient accrochés à moi pour m'empêcher de partir. Bon, ça aurait été déchirant. De toute façon, c'était quand même déchirant de les laisser. J'avais quand même de la culpabilité, je ne peux pas dire le contraire. Mais je choisissais mon métier et franchement, ils n'ont jamais eu l'air de m'en vouloir. Ils ont quand même réussi leurs études, tout ça. Je dis ça aussi pour, comment dire, tranquilliser les femmes qui exercent certains métiers où on leur dit « mais non, si vous faites ça, vos enfants, etc. etc. » Bon, ils ont quand même réussi leurs études.
Alors revenons à vous, voilà. Martine Larjoubert. Dans le livre qui vient de paraître au Cherche Midi, une femme au front, donc mémoire d'une reporter de guerre, vous dites, à la façon du soldat, le grand reporter a choisi son métier, autrement dit, son risque. Mais comment sait-on, avant d'arriver pour la toute première fois dans un pays en guerre, qu'on sera capable de faire face aux situations extrêmes qu'aucune occidentale vivant dans un pays en paix ne peut même imaginer ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en réalité, il ne faut pas trop se poser la question au départ. Un grand reporter, c'est quelqu'un qui a sa valise toujours faite. C'est quelqu'un qui pense pas au risque avant de partir, parce que sinon on pourrait décider de ne pas partir. Et enfin, c'est quelqu'un, il faut que ça soit, qu'on soit en bonne condition physique, hein. Il faut être capable de courir. Voilà. Donc, avec tout ça, moi j'ai travaillé beaucoup en télévision, ça dépend aussi avec qui vous êtes. C'est très important.
Le JRI, celui qui tient la caméra, n'est-ce pas ?
Voilà, ça c'est capital. Il faut vraiment qu'on s'entende bien, vraiment, qu'on sache où aller, au même moment. Moi, en plus, je fais confiance aux JRI avec qui j'ai travaillé, qui étaient pour la plupart excellents. Parce que les JRI ont quelquefois un instinct que moi, je n'ai pas. Un instinct quelquefois plus développé. Peut-être parce qu'ils ont en effet cet œil. Donc, quand ils me disaient « Non, Martine, on n'y va pas. » Ok, je n'essayais pas de le convaincre. Mais quand il est arrivé qu'en pleine embuscade, le JRI se retourne et me dise « On y va ?» Ok, s'il me dit « On
Vous
y va. » Voilà. Il y a une histoire de confiance mutuelle, il y a une histoire d'instinct.
Mais alors, les gilets pare-balles ne sont, paraît-il, taillés que pour les hommes ? Il n'y a pas de gilets pare-balles pour les femmes ?
Alors, moi, je me suis battue pendant 20 ans pour avoir des gilets pare-balles qui me conviennent. Les gilets pare-balles de France 2, franchement, ils sont énormes, énormes. Ils ne me conviennent pas du tout pour courir, par exemple. Ce sont des gilets pare-balles qui conviennent quand on est avec une armée et qu'on ne bouge pas beaucoup. Voilà. Mais quand il s'agit de courir, et de courir quelquefois toute la journée avec ces gilets pare-balles-là, non, ils sont mal coupés. Voilà, moi, ils ne me conviennent pas du tout. En revanche, j'aime beaucoup les gilets pare-balles de France 24. Ceux-là, ils me plaisent.
Elle a beaucoup d'humour. Martine Larjoubert, dans ce livre, donc baptisé Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre qui paraît au Cherche Midi, vous écrivez « S'il est un point commun à tout grand reporter, c'est de ne jamais se poser la question de sa propre sécurité dès lors qu'un sujet nécessite d'être couvert. » Bien sûr, parce que cela posé, ce serait déjà décidé de ne pas partir. Mais tout de même, je reviens sur ce point parce que la sécurité, c'est un paramètre important pour votre rédaction, déjà, pour vos chefs, et puis surtout pour vos enfants qui attendent votre tour, même s'ils n'ont pas l'air de tant s'impatienter que ça.
Oui, mais les enfants, quand je leur posais la question, ils ont toujours été certains à 100% que je reviendrai. Ils n'ont jamais eu de doute là-dessus. Donc, si vous voulez, le silence qu'ils avaient me protégeait en quelque sorte. Je partais avec leur bénédiction. C'est un mot un peu prétentieux peut-être, ou un peu vaste. Voilà. Mais je partais avec leur protection.
Mais quand on revient vivante de Sarajevo, de Syrie, d'Afghanistan, de Bagdad, de Libye, on ne finit pas par se demander si on n'est pas immortel.
Immortel, oui et non. Parce que chaque fois que j'ai cru mourir, il m'est arrivé par exemple en Croatie d'être prise sous des tirs, je me suis mise à courir, mon gilet pare-balles était en effet trop gros, trop long, trop lourd, il m'arrivait jusqu'au genou, je suis tombée, les tirs ont redoublé. Là, j'étais surtout, en réalité, furieuse contre moi-même. J'avais pas tellement peur de me faire tuer, j'étais folle de rage d'être tombée. Quand j'ai sauté sur une mine artisanale, j'ai eu le temps de me dire, ben voilà, ça y est, c'est fini. J'ai eu le temps de me dire ça. Et puis non, finalement non. c'était pas fini. Et puis, on pouvait quand même pas sortir du MV parce qu'il fallait qu'il sécurise. Ça commençait à sentir le brûlé. Je m'étais dit, bon, par radio, il nous disait de ne pas sortir. Je m'étais dit, bon, moi, je pourrais peut-être sortir par le toit.
Le courage, c'est donc, peut-être finalement une question d'amour propre.
Oui, sûrement. L'amour propre aussi, l'amour propre joue certainement. Mais je dirais pas le courage parce que on a un travail qui nous protège. Voyez, quand on doit faire un travail, je ne sais pas comment ça serait dans la vie réelle, dans la vie quotidienne. Voyez, mais quand on a un travail qu'on doit filmer, qu'on doit rendre compte, qu'on doit après aller diffuser le sujet, qu'on doit le monter, etc.
Et on va évoquer tout ça tout à l'heure.
Voilà, tout ça, ça protège des émotions. Et ce qu'il y a d'important dans tout ça, c'est le sujet. C'est pas je ne me dis pas est-ce que je suis courageuse ou pas et tout. Non, je me dis est-ce que
arriver au bout de la mission.
Voilà. Arrive au bout de la mission et est-ce qu'on envoie un bon sujet ? Est-ce qu'on fait un bon sujet ? Est-ce qu'on remplit bien notre ordre de mission ?
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Sa vie n'est pas la nôtre et elle l'a choisie. Je reçois Martine Laroche-Joubert, reporter de guerre qui fait paraître au Cherche Midi ses mémoires sous le titre « Une femme au front ». Martine Laroche-Joubert, dans ce récit, qui éclaire donc 33 ans de votre vie de reporter de guerre, vous ne livrez que quelques bribes de votre enfance, puis vous mettez de côté, la femme que vous avez été, alors que cette vie-là est vraiment absolument romanesque. Votre terre originelle n'est pas la France, c'est le Maroc, bien sûr, où votre père, à sa sortie de l'ENA, a été envoyé comme contrôleur civil. Donc la langue berbère, les chants du muezzin, Chichawa, Rabat, Casablanca. Je voudrais qu'on reste un moment sur l'enfance. Vous avez été heureuse dans ces dernières années du protectorat français ?
Pas du tout.
Là-bas ? Pas du tout ?
Pas du tout.
Vous avez aimé le pays ?
J'ai adoré Chichawa, le désert, les cigognes qui arrivaient l'hiver pour se réfugier dans les palmiers, dans le jardin. J'ai adoré les gazelles dans les enclos où elles étaient. J'ai adoré les cavalcades de chameaux, de chevaux dans des réceptions que devait donner le Glaoui de Marrakech. Etc. Ça, j'ai adoré ça. J'ai détesté être à Rabat et à Casa. J'étais petite, donc j'avais du mal à me le formuler comme ça dans ma tête. Mais quand même, je me le disais, mais qu'est-ce qu'on fait là, nous ? Je ne comprenais pas ce qu'on faisait là, nous, les Français, les Blancs. Oui. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi on donnait des ordres aux Marocains. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi mon père mettait de temps en temps Ahmed, qui s'occupait de nous, en prison. Mon père disait que c'était parce qu'il buvait trop. Tout ça, je ne comprenais pas. J'étais chez les sœurs. Il n'y avait aucune Marocaine en classe. Je ne comprenais pas non plus. J'aurais aimé parler leur langue, parler l'arabe. Je ne le parlais pas. J'aimais ces gens, mais je ne comprenais vraiment pas pourquoi on était là. Et ça, il y avait une atmosphère autour de moi, à Rabat et à Casa, en cette fin du protectorat. De temps en temps, j'entendais parler de bagarres ou de coups de force ou de coup de main. J'entendais ça et j'étais choquée. Mais je n'en parlais à personne parce que je ne voyais vraiment pas qui j'aurais pu en parler. Évidemment pas à mes parents.
Évidemment pas à mes parents.
Parce que, vous savez, c'était les années 50 et je pense que les parents élevaient leurs enfants d'une manière assez différente de maintenant, bien qu'on peut dire que moi j'ai élevé mes enfants de manière particulière. Donc voilà. Bon, disons que mes parents ne parlaient pas beaucoup. Voilà. Moi je n'avais pas le droit de parler à table, par exemple. Donc bon.
Il était plus que sévère.
Oui, il était très sévère.
Austérité ouais. extrême, votre
ouais,
père,
très.
N'est-ce pas ?
Très, très, très.
D'ailleurs, c'est étonnant parce que il paraît qu'il vous voulait au lycée, au-delà de l'excellence, en précisant au cas où tu deviendrais veuve.
Exactement.
Il vous disait ça.
Oui, exactement. Oui, oui. Au cas où je deviendrais veuve et si j'avais dû nourrir ma famille, je ne sais pas, 5 ou 6 enfants, voilà. Donc je faisais des études pour mon père dans cette perspective. Mais il fallait quand même que je sois la première. Donc voilà. Donc il me mettait aussi au lycée pendant les vacances d'été. Je n'avais jamais de vacances pour continuer à travailler. Il était très sévère.
Alors, voilà, en 56, vous êtes donc rentrée en France à la fin du protectorat. Et puis, il vous a fallu, pour satisfaire votre père, viser l'excellence. Après avoir fait Sciences Po, eh bien, on m'a dit, mais pas tout à fait, vous avez songé à l'ENA.
Oui, il y avait 4 sections à Sciences Po. J'étais dans la section service public qui préparait à l'ENA. Là, je suivais un peu les traces de mon père. Et puis, après Sciences Po, j'en ai eu vraiment ma claque. Et j'ai commencé à faire du théâtre avec... une fille qui s'appelait Elisabeth Huppert, la sœur d'Isabelle Huppert.
Oui.
Et nous avons commencé à faire du théâtre ensemble. D'abord chez un vieux russe et puis après chez Jean-Laurent Cochet.
Avec Lucchini.
Voilà, Lucchini. Jean-Laurent Cochet a beaucoup fait travailler aussi Depardieu, etc. Ouais. Bon, voilà, j'ai fait du théâtre. Et puis, moi j'aimais bien cette vie d'ailleurs parce que j'adorais revisiter les textes classiques. Voilà, mais franchement, j'étais pas une grande actrice. J'ai commencé à faire des bricoles, un peu de figuration par-ci, par-là, dans un film de Labro, je me souviens. Bon, enfin, rien de vraiment important. Et puis, voilà, et c'est mon mari qui, à l'époque, m'a dit « Mais tu peux pas rester comme ça, à ne pas travailler, il faut quand même que tu gagnes ta vie. » Je n'étais vraiment pas convaincue quand même. Et alors, il m'a dit « Écoute, voilà, un jour, il est arrivé, il m'a dit « Écoute, voilà, il y a un nouveau journal qui vient de se créer, Le Quotidien de Paris. À mon avis, il cherche des gens diplômés et mal payés. »
Donc c'était parfait
voilà.
Pour vous.
Parfait, donc j'y suis allée, je ne connaissais personne. J'ai été reçue par le rédacteur en chef, Richard Licia, je m'en souviens très bien. Et il m'a engagée un dimanche. Voilà, il fallait que je commence un dimanche. Et on m'avait dit, tu mettras très longtemps avant de signer des articles.
C'est arrivé rapidement, j'imagine.
Le jour même, parce que j'étais en train de me chercher un pseudo un peu exotique. Donc, d'un peu cubain, d'un peu voilà, Havane, je cherchais des choses comme ça. Et je vois encore le rédacteur en chef entrer et il me dit, il faut faire un article sur le Concorde. Oh ! Sur le Concorde, mais je n'y connaissais rien. Mais bon, je me suis quand même lancée, j'ai lu quelques journaux à droite à gauche, j'ai remanié ça, etc. Voilà, et c'est un article qui a été signé. C'est comme ça que j'ai commencé, je n'ai pas eu le temps de me trouver un pseudo.
Ensuite, eh bien, vous êtes entrée à Antenne 2, disait-on à l'époque. On vous retrouve d'abord dans une émission de culture rock, avant d'être engagée au journal de la 2, au service société, et puis de couvrir les grands faits divers comme la mort de Jacques Mérine, l'enlèvement du baron en pain, ou l'affaire Boulin, crime non élucidé. Vous n'étiez pas encore reporter de guerre, mais déjà, la mort était très présente dans vos enquêtes de journaliste. On vous mettait sur des dossiers
sombres. Exactement.
Mais pourquoi ?
Des dossiers sombres et lourds. Franchement, je ne sais pas. Je devais quand même manifester un certain intérêt. La mort de Jacques Mesrine, je l'ai couverte un peu par hasard, hein, parce que voilà, j'étais de permanence dans une voiture qui avait le téléphone. Vous vous rendez compte, à l'époque, il n'y avait de téléphone et j'étais pas très loin de la porte de Clignancourt. Donc voilà, j'y suis arrivée tout de suite. Et d'ailleurs, je crois que c'est le reportage dont on me parle le plus. Donc c'est vrai que je traitais d'affaires qui étaient lourdes, mais je ne me disais pas que j'étais la meilleure sur ces affaires-là. Je pensais que d'autres le feraient aussi bien que moi. Voilà.
Mais bon, un journaliste enquête, témoigne, révèle bien sûr. Vous, Martine Laroche-Joubert, vous n'étiez pas épanouie, n'est-ce pas ? Vous aviez une sensation de manque parce que vos enquêtes ne vous amenaient pas hors de France ?
J'avais envie d'ailleurs. Et la première fois où j'ai eu comme ça, où j'ai respiré le parfum de l'aventure, le parfum de l'ailleurs, c'est quand j'ai été envoyée avec Patrice Hutertre en Centrafrique pour faire un reportage sur les pygmées. Et nous sommes partis avec deux enfants d'une dizaine d'années. C'était l'année internationale de l'enfance, d'après l'ONU. Et quand je me suis retrouvée comme ça en Centrafrique, avec ces odeurs, ces sensations tellement fortes, la forêt, les pygmées, c'était magique. Et là, vraiment, je me suis sentie bien. Je me suis sentie... J'ai retrouvé les sensations de ma toute petite enfance au Maroc, à Chichawa, dans le désert.
Oui, mais là, voilà. Il s'agissait tout de même d'une expédition plutôt à caractère ethnologique.
Oui.
On était encore très loin du reportage de guerre.
Bien sûr, mais c'était quand même l'aventure. C'était l'aventure. On ne savait pas où on allait passer la nuit, on partait, on voyageait quelquefois sur des bacs, on mettait les voitures sur des bacs, on ne savait pas, la solidité des bacs était assez approximative.
C'était l'Afrique romanesque, pas encore dangereuse comme elle l'est aujourd'hui.
Non, elle n'était pas dangereuse du tout, on a dormi dans une case, là, on a appris le lendemain qu'elle s'appelait la case aux serpents, vous voyez, des choses comme ça. Bon, il y avait quand même des animaux qui traînaient par là, qui étaient... assez redoutable.
Alors, Martine Laroche-Joubert, quels ont été vos arguments, vos mots précis pour convaincre la direction du journal de la 2 de vous laisser intégrer le service étranger comme reporter de guerre ?
Ça n'a pas été si difficile que ça de les convaincre. Même pas du tout. Ils me l'ont proposé très naturellement. Souvent, les hommes n'étaient pas disponibles. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils me l'ont proposé d'abord quelques fois à moi. Par exemple, je me souviens que la première fois, au moment de la guerre du Golfe, par exemple, quand je suis allée en Arabie Saoudite ou en Irak, les journalistes, rédacteurs, hommes n'avaient pas beaucoup de disponibles. Donc voilà, donc moi je l'étais, je suis partie.
Dit-elle sereinement.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Martine Laroche-Joubert, en 84, donc l'année où vous êtes devenue officiellement grand reporter pour La 2, il y avait beaucoup moins de femmes qu'aujourd'hui qui exerçaient cette profession ?
Beaucoup moins, oui. Quand je suis rentrée dans le service de politique étrangère, d'Antenne 2, il n'y en avait qu'une, Patricia Coste, oui, qui avait couvert d'ailleurs la guerre du Liban. Et moi, j'étais la deuxième.
Alors, qu'y a-t-il dans le bagage, je ne vais pas dire les, parce qu'on ne part pas pour une excursion, mais qu'y a-t-il dans le bagage d'une femme qui part couvrir un conflit armé à l'autre bout du monde ?
Alors, c'est une valise qu'il faut faire avec la plus grande attention. D'abord, j'essaie toujours de ne pas choquer dans les pays en guerre. Donc souvent, je vais dans les pays arabes, donc j'ai des manches longues, j'ai des pantalons pas trop moulants. J'emporte toujours une tenue un tout petit peu habillée au cas où je serais invitée peut-être.
À l'ambassade ou...
Voilà, oh, à l'ambassade, on est rarement invité dans les ambassades. Mais peut-être chez quelqu'un d'important, voilà, un ministre du coin important. Voilà. J'emporte toujours une tenue un peu habillée. Il faut voyager léger. Vous parliez de valise, je voyage léger, donc je mets beaucoup de choses dans un sac à dos. J'emporte toujours quand même des produits qui me ramènent à la civilisation, comme ça, pour me faire plaisir. Une crème, un tout petit peu de parfum, un peu de rouge à lèvres, du shampoing sec. Vous voyez, des choses comme ça quand même.
Et comme les agents secrets, vous disposez de plusieurs passeports, c'est ça, pour ne pas être reconnu par les douanes des pays en guerre ?
J'ai plusieurs passeports, c'est vrai. Maintenant, c'est plus compliqué avec Internet. Ils arrivent plus facilement à nous pister. Mais la première fois que je suis allée en Syrie, j'y suis passée quand même... officiellement ou pas. Le caméraman, lui, s'est fait refouler. Voilà. Et moi, qui avais mon passeport à mon nom de jeune fille, ils m'ont quand même accepté. Voilà. Donc, on leur avait dit qu'on était professeurs et tout. C'est compliqué. Il faut s'inventer des identités, s'y tenir. Mais quelquefois, ils s'aperçoivent que ce n'est pas vrai. Bon, enfin bref. Mais j'ai toujours eu de la chance pour ça. J'ai fini par avoir l'habitude. Et franchir les frontières clandestinement, ces dernières années, j'ai dû le faire, je ne sais pas moi, une dizaine de fois. Donc voilà, soit en passant.
Avec des fixeurs, des passeurs.
Bien sûr, c'est très important. Oui, les fixeurs, les passeurs. Il faut être avec des gens avec qui on a confiance.
Vous êtes en guerre en stop, oui, en Libye, par exemple.
Oui, exactement.
Non, mais attendez, oui, oui. Là, on s'en remet à un, oui, hasard qui peut être totalement funeste. Faire du stop pour passer en Libye, oui, à l'époque où, oui, on cherche à tuer Kadhafi.
Mm-hmm. Mais quelquefois, il n'y a pas d'autre moyen. Comment voulez-vous faire ? Donc, la voiture, ou la voiture est en panne, ou on n'a plus de voiture. Bon, ok, on fait du stop.
Dit-elle sereinement. Alors, Martine Laroche-Joubert, un reporter de guerre ne tient pas la caméra. Il a un JRI pour ça. Il y a aussi un monteur, n'est-ce pas, le monteur qui travaille dans l'urgence, bien sûr, avant de pouvoir envoyer tout par satellite.
Voilà, exactement. Nous sommes dans
3,
l'idéal...
4
dans non, on n'est plus jamais 4. Dans l'idéal, nous sommes 3, mais il arrive quelquefois qu'on ne soit que 2. Et là, c'est vraiment difficile parce que le JRI a une charge de travail absolument énorme sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tourne pendant la journée, qu'il monte, qu'il envoie. C'est beaucoup trop lourd. Mais dans les terrains de guerre, en général, on nous envoie à 3 si on est en news. Si on revient à Paris et qu'on monte le sujet à Paris, là, on part à 2.
Alors, en lisant votre livre passionnant qui paraît au Cherche Midi, j'ai appris que pour envoyer un reportage, donc pour accrocher un satellite, il faut absolument que le matériel de diffusion soit à l'air libre. Je voudrais savoir comment vous faites quand ça tire de partout dans les rues, que ça bombarde en permanence et que vous êtes à l'abri dans une cave pour sortir à l'air libre, chercher à accrocher un satellite.
Alors ça nous est arrivé en effet à Tripoli, pendant la prise de Tripoli. Les kadhafistes nous cherchaient, nous étions encerclés, on s'est réfugiés dans le sous-sol d'une école. On a monté le sujet, mais ce sujet, il fallait l'envoyer. Alors le JRI, Bruno Giraudon, a suggéré en effet au monteur, « Écoute, mets-toi en djellaba, trouve une djellaba et va le diffuser. » Là, on a dit non, quand même. Là, on va vraiment se faire repérer. C'est pas un bon plan. Mais Bruno Giraudon, le JRI, qui ne s'avoue jamais vaincu, a trouvé un puits d'air qui montait du sous-sol de l'école, 2 étages plus haut, et on voyait en effet un peu le ciel. Alors il a pris sous son bras l'antenne satellite portable, et avec l'aide de ses 2 jambes et d'une seule main, il a réussi à monter tout en haut sur le toit. Il a posé l'ordinateur, l'antenne satellite, et à ce moment-là, on a entendu bip, et
le sujet. Ça veut dire que j'ai le signal.
Le sujet est parti. Était en train de partir.
Ouais. Extraordinaire. Ouais. Mais ceux qui l'ont visionné à 20h-5 pour, oui, le journal, oui, ignoraient complètement la folie de ce que vous aviez vécu pour leur envoyer ce reportage.
Ah oui, complètement. Donc, mais de toutes les façons, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est le sujet. On ne va pas leur raconter les circonstances dans lesquelles on l'a tourné, monté, envoyé. Voilà, l'essentiel, c'est que le sujet soit là et que ce soit un bon sujet.
À Albert Londres aurait aimé la rencontrer. Cette femme éprise de liberté, toujours sur le départ, et qui sait si bien maîtriser ses peurs dans le chaos des guerres. Martine Laroche-Joubert fait paraître en Cherche-Midi, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. Alors, Martine Laroche-Joubert, comment considérez-vous les présentateurs de journaux télévisés qui, assis dans leur fauteuil, lisent le prompteur avec une application solennelle ? En fait, ils ne connaissent rien du monde dont ils nous donnent des nouvelles.
C'est un métier quand même, je vais vous dire, j'ai quand même de l'admiration pour eux. Franchement, je l'ai fait un tout petit peu, pas pour tous. Mais bon, c'est un métier quand même difficile de gérer son image. Ils n'ont que leur image pour transmettre quelque chose. C'est pas facile. Il y a des présentateurs que je préfère à d'autres. Ça, c'est sûr. Voilà.
Alors, parlons de ceux que vous aimez, par exemple.
J'aime bien Laurent Delahousse. Hein, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui nous lance bien. C'est quelqu'un qui nous respecte.
C'est important d'être bien lancé, comme vous dites.
Oui. Voilà, d'être bien lancé. Si je suis en Libye, j'aime pas qu'on me lance comme si j'étais, j'en sais rien, moi, en train de faire un sujet société à Poitiers ou ailleurs. Vous voyez, il faut quand même le lancer avec une certaine intensité. J'aime bien aussi David Pujadas. Non, il y a vraiment des présentateurs qui savent mettre le reportage en valeur.
Oui. Voilà. Oui. Le Monde, c'est une poudrière avec des enjeux colossaux. Mais dans les JT français, je trouve qu'il y a quand même très très peu de news sur la politique étrangère. On ne nous parle pas en fait de ce qui se passe en Chine, en Russie, et puis juste un petit peu de ce qui se passe en Amérique, au Moyen-Orient. Vous trouvez ça regrettable, cette place si congrue donnée en France à la politique étrangère ?
Ah oui, ça absolument. Absolument. Alors c'est vrai que envoyer des reporters quelque part, ça coûte de l'argent. Et beaucoup de patrons de presse, maintenant, sont beaucoup plus gestionnaires que journalistes. Donc, souvent, les reporters ont du mal à les convaincre qu'il faut partir. C'est un combat aussi à l'intérieur de la rédaction pour réussir à partir sur des terrains chauds. Donc, voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas autant d'étrangers. Ils pensent que l'étranger n'intéresse pas les gens. C'est pas vrai.
Mais dans ce monde mondialisé, voilà. Justement,
bien sûr,
on dépend essentiellement de ce qui se passe à l'étranger.
Absolument. Donc, je trouve que la place accordée à l'étranger, aux grands événements internationaux, n'est pas assez consistante dans les journaux. Je le déplore. Ce n'est certainement pas la faute des reporters qui se battent pour ça. Oui. C'est souvent la faute, de patrons de presse frileux, de rédacteurs en chef qui s'en fichent peut-être, de présentateurs aussi. Voilà.
On va creuser le sujet. Parce que votre camarade journaliste, Alain Chalvron, aime à rappeler que vous êtes la première journaliste au monde, Martine Laroche-Joubert, à être entrée en 92 dans l'enfer de Sarajevo, à être entrée en 2011 dans le chaudron libyen, et puis en 2017, à Raqqa, capitale syrienne de l'État islamique. Vous avez l'intention d'ailleurs de retourner. Mais comment les choses précisément se décident-elles ? C'est vous qui en faites la demande ou c'est votre rédaction qui décide de vous envoyer en mission là-bas ?
Ça dépend des fois. Sarajevo, c'était ma proposition. Il y avait quelques journalistes de presse écrite, mais il n'y avait pas de télévision étrangère. Donc, quand Jean-Marie Le Maire a débarqué un soir à Antenne 2 et qu'il m'a dit « Écoute, j'ai un contact avec Pharmaciens sans frontières et je crois qu'on peut réussir à rentrer dans Sarajevo ». À ce moment-là, aucune image n'arrivait de Sarajevo. L'émetteur avait été bombardé par les Serbes et il n'y avait donc aucune équipe de télévision étrangère. Et là, la rédaction, ils ont signé. Il était très tard, il devait être 8h30 du soir, 9h, je ne sais pas. Est-ce pour ça ? Voilà, donc là, ça venait de moi. Pour la Libye, par exemple, j'ai reçu comme ça un coup de fil de Dorothée O'Leary, qui est grand reporter et qui remplaçait le responsable. Et elle me dit « Tu es prête à aller en Libye demain ?» Ok, donc là, ça venait de la rédaction. Voilà.
Mais il paraît par exemple que pour filmer la chute de Raqqa, oui. la capitale syrienne de l'État islamique, qui d'ailleurs est reprise par l'État islamique, il paraît que vous avez réussi à écarter le couperet légal de la mise à la retraite en demandant une dérogation. C'est quand même extraordinaire.
Ah oui, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu beaucoup de mal parce que, les patrons de la rédaction voulaient me faire partir le jour de mon anniversaire, en mars. Et moi, je savais très très bien, grâce aux Kurdes avec qui j'ai de bonnes relations, qu'ils allaient rentrer en juin et que je pouvais être la première à rentrer avec eux. Voilà. Ouais. Mais j'ai eu du mal, hein. Ça n'a pas été évident. Hein. J'ai dû me bagarrer pour rester 2-3 mois de plus, alors alors que c'était indispensable. Voilà. Mais l'entrée dans Raqqa, être là, tout ça, ça ne les passionnait pas. Vous voyez, il y a des gens que ça ne passionne pas.
Alors, il y a une chose qui m'intrigue, Martine Laroche-Joubert. Quand vous avez couvert la guerre du Golfe, vous étiez persuadée que toutes les guerres à venir seraient exclusivement technologiques. Or, eh ben voilà, vous êtes trompée et je crois que c'est le refaire de Sarajevo qui vous l'a prouvé. Sarajevo et ses snipers derrière chaque fenêtre, un obus qui tombe toutes les 30 secondes, nuit et jour, toutes les 30 secondes, pas une maison qui ne soit une ruine et puis des hommes qui s'entretuent comme pendant le siège de Stalingrad. Sarajevo, ça reste l'une des expériences vraiment les plus frappantes de votre carrière de reporter.
Ah oui, absolument. Absolument, parce que qu'il y ait un siège moyenâgeux en plein cœur de l'Europe... À deux heures de vol de Paris, c'est quand même incroyable, c'est insensé. Affamer des gens, les bombarder en effet jour et nuit. Et quand je suis allée à Sarajevo en juin 1992, donc, et que j'ai ramené les images, moi j'étais persuadée que les politiques allaient faire cesser ça. Je me souviens que j'étais allée sur le plateau d'Antenne 2 au moment où d'ailleurs Mitterrand avait fait une visite à la fin du mois de juin. Ouais. Et j'avais dit, mais quand Mitterrand va avoir ça avec ses tripes...
Il va agir.
Il va faire quelque chose. Il va agir. Et vous vous rendez compte, ça a pris 3 ans et 8 mois. C'est un siège qui a duré 3 ans et 8 mois.
Alors, un siège de près de 4 ans avec... Un obus qui tombait sur la ville toutes les 30 secondes. Il paraît que, en fait, un général de l'armée serbe avait ordonné bombardez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent fous.
Oui, c'est ça. C'était le général Mladic qui avait dit ça à ses troupes, les Serbes, donc, qui ont encerclé la ville. Et comme c'était une. Sarajevo était au fond d'une cuvette, hein, et donc les Serbes étaient tout autour. Et donc, il a bombardé comme ça, jour et nuit. C'était incessant. Et vous rendez compte que Sarajevo, c'était quand même une ville qui avait connu les Jeux Olympiques.
Mais oui.
En 1984. Mais oui. Et comme ça, vous rendez compte, à ce moment-là, vous savez que le monde peut basculer très vite. Mmh.
Les morgues débordaient, oui. Les ambulances étaient criblées de balles, les snipers vous tiraient dessus comme on tire sur des lapins. Comment se débrouille-t-on pour rester en vie ?
Alors, avec Jean-Marie, le GRI, nous prenions des voitures vraiment au hasard dans les rues. Hein. Ils branchaient les fils, des voitures abandonnées, amochées, etc.
Mais comme encore dans les blockbusters américains.
Oui. Donc, ils branchaient les fils et voilà, on circulait comme ça. On évitait les routes parce que c'était là où étaient postés les snipers. Donc, on passait par les cours d'immeubles, on passait par les ruelles. C'était indescriptible parce que c'était de la sauvagerie à l'état pur. Oui. Vous voyez des gens qui traversaient les routes, on les voyait devant nous et pam, il recevait une balle.
Alors, le problème, Martine Laroche-Joubert, c'est que cette guerre était si barbare que vos propres rédactions en télé rechignaient, paraît-il, à diffuser vos images sous prétexte qu'elles avaient un effet répulsif sur les téléspectateurs qui, à 20h, regardaient le journal, c'est ça ?
Exactement.
Donc, on vous disait non, c'est trop. Oui. En fait, la guerre, oui, mais aseptisée, c'est ça ? On vous reprochait, en fait, de leur livrer... la réalité du monde.
C'était parce que la guerre de Yougoslavie, et Sarajevo en particulier, les téléspectateurs ne supportaient pas cette guerre. Ils ne la supportaient pas parce que les gens qui étaient victimes de cette guerre étaient trop proches de nous, peut-être. Je ne sais pas quelle était la raison. Mais en tout cas, les téléspectateurs, quand ils voyaient un sujet sur Sarajevo, zappaient. Donc les rédacteurs en chef n'aiment pas tellement que des gens quittent le journal comme ça en cours de route. Et nous, on devait se battre avec nos rédactions pour qu'ils passent les sujets. Et d'ailleurs, ça a été, Marcelo Fuls, le réalisateur, a fait un documentaire là-dessus sur nos bagarres à Sarajevo pour essayer de faire passer nos sujets. Vous voyez, il a vu combien ce métier n'était pas celui qu'il croyait peut-être qu'il était au départ, c'est-à-dire un métier où nous serions des grandes gueules, vous voyez, des gens comme ça. Non, il nous a vus vraiment en train de monter nos sujets comme des artisans et vraiment, nous étions bombardés.
Au péril de vos vies.
Voilà, nous étions bombardés et nous bombardions nos rédactions d'images. Chaque fois, on espérait que ça allait servir à quelque chose et chaque fois, on était déçus.
Alors, en Croatie, Martine Laroche-Joubert, vous avez failli mourir mitraillée dans une embuscade et c'est un confrère britannique sous les tirs qui vous a sauvé. Or, quelques jours plus tard, à Paris, alors que vous claudiquiez sur vos béquilles, et ben voilà que, par hasard, vous croisez votre directeur de l'info qui paradait dans un restaurant et qui ne vous avait pas jeté le moindre regard. Il existe vraiment un gouffre entre la vie des reporters de guerre et celle de leur hiérarchie, c'est ça ?
Bon, ça dépend des hiérarchies. Et encore lui, c'était pas l'un des pires.
C'était pas l'un des pires.
C'était pas l'un des pires. Ça dépend des hiérarchies. Il y a des moments où les directeurs de l'info, les rédacteurs-chefs ont eux-mêmes couvert ce genre de terrain, donc ils savent quand même ce qu'on risque, ou même s'ils ne l'ont pas couvert, ils nous respectent. Mais il y en a, et c'était son cas, et c'était le cas de bien d'autres, qui n'en ont aucune idée, et en plus, ça ne les intéresse pas. Donc il m'a dit, moi je me suis avancée vers lui avec mes béquilles et tout ça, je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu t'occupes de tes reporters. Et j'étais avec mes parents, qui m'avaient emmené déjeuner, et lui il me dit, ah mais je t'ai envoyé des fleurs. Les fleurs, je les attends toujours. Mais bon, ça dépend vraiment de la personnalité des gens qui ont le pouvoir dans les rédactions. C'est très variable, j'en ai connu des très attentifs, des très soucieux. Je me souviens d'un PDG qui c'était assez récent d'ailleurs, Rémi Fillon-Lin, qui m'envoyait régulièrement des petits mots de soutien quand il sentait que j'étais en difficulté, enfin voilà. Et puis il y en a qui s'en fichent totalement. En 2017, le groupe État islamique a lancé un drone chargé d'explosifs sur notre voiture. Nous n'étions pas dedans, par chance. Mais bon, il y a des Kurdes qui ont été blessés. La rédaction ne nous a pas envoyé le moindre message.
Incroyable. Voilà, tant de paix ou tant de guerre, on peut dire que la nature humaine a tous les reliefs. Est-ce du courage ? Est-ce de l'héroïsme ? Ou une façon de s'écrire un destin ailleurs ? Je reçois Martine Laroche-Joubert qui fait paraître au Cherche-Midi une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre. Alors Martine Laroche-Joubert, j'imagine qu'en 33 ans de reportage dans le chaos des guerres, vous n'avez pas croisé que des sanguinaires et des traîtres, mais parfois peut-être des héros. Qui sont-ils, les héros ? Ce sont souvent des gens ordinaires dans des situations extraordinaires ?
Oui, absolument. Et c'est aussi pour ça que je voulais écrire ce livre. Je voulais écrire ce livre pour redonner la parole à des gens que j'avais croisés en reportage et qui avaient eu un vrai rôle, mais qui sont complètement inconnus. J'ai parlé de cette jeune femme qui a rompu le siège de Sarajevo et sur qui j'ai fait un documentaire beaucoup plus tard quand elle a été assassinée. Mais j'ai parlé aussi d'une autre jeune femme pendant la révolution en 2011 à Benghazi. Elle était avocate, elle avait les cheveux libres sur ses épaules et elle était l'une des âmes de cette révolution en laquelle elle croyait. Et plus tard, elle aussi, elle a été assassinée. Et donc je voulais, vous voyez, restaurer la parole de tous ces gens. Il y a aussi des femmes que j'ai rencontrées, c'était la guerre, mais longtemps après. Par exemple, j'ai adoré faire ce reportage. C'est un reportage qui s'appelle une opérette à Ravensbrück. Et c'est une opérette qui a été écrite par Germaine Tillion en 1944.
Quand elle était dans les camps.
Quand elle était dans le camp de Ravensbrück. Et c'était pour distraire un peu toutes ses sœurs d'infortune. Ouais. Germaine Tillion est morte en 88. Mais j'avais appris que l'opérette allait se jouer dans le camp de Ravensbrück. Ouais. Et qu'il y aurait des survivantes qui allaient venir assister à cette représentation. Et quand je les ai vues, ces femmes... Il y avait la sœur aînée de Simone Veil, Mirka, il y avait Annette Chalut, des noms que personne ne connaît, Annette Postelvinet, voilà. Et ces femmes, en les regardant, elles avaient près de 90 ans, et j'ai compris pourquoi elles s'étaient engagées dans la résistance quand elles avaient une vingtaine d'années. Parce qu'il y avait toujours, 60 ans après, dans leurs yeux, la même flamme, une flamme rebelle, voilà. J'ai adoré faire ce reportage avec ce genre de personnes qui sont en plus tellement, tellement modestes, qui arrivent à se moquer d'elles-mêmes. Même cette opérette, elle me disait, vous voyez, c'est bien la preuve qu'on peut se décentrer pour rire. Je trouve ça génial de dire ça comme ça à leur âge, même si les souvenirs étaient encore tellement présents quand elle me parlait de certaines d'entre elles qui étaient passées dans les chambres à gaz. Je voyais les larmes qui leur montaient aux yeux et puis elle se reprenait. Voilà, ça, ce sont des gens extraordinaires, souvent inconnus, et que j'adore rencontrer en reportage. C'est aussi pour ça beaucoup que je fais du reportage.
Vous avez dans vos yeux cette flamme rebelle que vous avez évoquée. Et d'ailleurs, Martine Laroche-Joubert, un confrère de votre service a déclaré un jour que, bah voilà, en Libye, au cours de la chute de Kadhafi, vous aviez vraiment rempli une mission de légende.
Oui, oui.
Il l'a dit, n'est-ce pas ?
Oui, il l'a dit, oui.
Qu'est-ce qui a le plus impressionné vos camarades si aguerris au cours justement de cette mission de légende ?
Je pense qu'ils disent mission de légende quand on est toujours un peu en avance, peut-être sur les autres télés, qu'on est vraiment au cœur de l'événement.
Oui, avoir le sens de l'histoire.
Voilà.
La petite, la grande, toutes les notions géopolitiques qu'il faut qu'on sait être dans la bonne anticipation.
Exactement. Et ça, c'est pas facile. Quelquefois, on le manque d'ailleurs. Quelquefois, on n'est pas au bon endroit, au bon moment. Ça peut arriver. Hein. Mais quelquefois, ça, on est vraiment, voilà, on y est.
Alors, pour parler de timing, Martine Laroche-Joubert, est-il vrai que votre père était tellement habitué à savoir sa fille en reportage dans les pays en guerre que dans la nuit du 2 août 90, alors que vous étiez en vacances ensemble à Biarritz, eh bien, votre père est venu vous trouver en s'exclamant « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que Saddam vient d'envahir le Koweït ?»
Oui, oui, c'est vrai. Il est venu.
Il vous a engueulé.
Oui, absolument. Donc, je suis sortie de l'eau. Et mon père, j'ai dit qu'il était sévère, etc., etc. Il ne m'a jamais vraiment félicité pour mon métier, ni quoi que ce soit. Ouais. Mais je sentais quand même qu'il était content que je le fasse. Et j'étais très touchée par quelque chose. Parce que quand il était en train de mourir, il était en train vraiment d'agoniser. Il était à Bayonne, dans une clinique. Et j'étais horriblement culpabilisée parce que j'étais à Bagdad à ce moment-là. Et je n'arrivais pas à rentrer. Il n'y avait pas d'avion. Je n'arrivais pas à rentrer. Et je l'avais eu au téléphone. Et il a réussi à me dire, c'est bien que tu sois à Bagdad. Et ça, qu'il me dise ça, mon père, alors qu'il doit penser à quel point je me sens coupable et qu'il me dise c'est bien que tu sois à Bagdad, voilà. Tout ce dont j'ai pu, voilà, j'ai pu lui en vouloir de plein de choses et tout ça, tout a été effacé, tout a été pardonné, tout a été, voilà, par cette petite phrase.
Comme s'il posait ses mains sur votre tête.
C'est bien que tu sois à Bagdad. J'ai réussi quand même à rentrer à temps, mais voilà. Et j'étais là quand il est mort. Mais voilà, le fait de me dire ça, voilà, j'ai trouvé ça vraiment généreux de sa part.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Martine Laroche-Joubert, où donc une femme qui a sillonné la planète comme reporter de guerre peut-elle emmener en voyage, quand elle investit son rôle de grand-mère, sa petite fille, Solveig, âgée de 17 ans? Que tenez-vous absolument à lui montrer à Solveig?
À Solveig, nous étions ensemble au Cambodge. Donc, ce qu'il y a de bien avec Solveig, c'est qu'elle s'intéresse vraiment à ce qu'elle voit. C'est-à-dire qu'elle s'était informée sur la civilisation khmer. Elle avait un vrai regard, elle a une vraie curiosité. J'adore voyager avec une ado. D'ailleurs, j'ai voyagé beaucoup avec mon fils aussi. Je l'ai emmené quelquefois dans des endroits impossibles.
Comme...
Je l'ai emmené, par exemple, à Addis Abeba. Il y avait les rebelles tout autour de la ville. Je l'ai emmené en Sierra Leone. Je l'ai emmené quelquefois dans des endroits, quelquefois... risqué, mais quand même pas trop, je suis quand même pas complètement folle. Et, mais je voulais pas que mes enfants, que Constant, aient l'impression que je voyageais toujours sans lui.
Alors, il paraît que vous n'avez nullement l'intention de raccrocher, Martine Laroche-Joubert, puisque vous allez bientôt repartir à Mossoul et à Raqqa, c'est ça?
J'espère bien, oui.
Mais alors, expliquez-nous, parce qu'aujourd'hui, il faut se battre bien plus qu'hier pour endiguer les flots de la désinformation et des fake news.
Absolument.
Ces fameuses fake news.
Ouais.
Vous pensez que le combat est bien plus nécessaire encore que lorsque vous avez commencé comme reporter de guerre il y a 30 ans?
Oui, oui, bien sûr, c'est encore plus nécessaire. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, parce que ce métier, il est décrié par les politiques, il est décrié par les financiers dans les rédactions qui ne voient absolument pas à quoi peuvent servir les reporters, juste, on représente un budget pour eux, rien d'autre. Et c'est indispensable pour comprendre le monde, c'est indispensable pour endiguer les fake news, c'est indispensable pour donner la parole à des gens qui ne l'auraient pas si nous n'étions, qui ne prendraient pas la parole si nous n'étions pas là. C'est un métier qui est vraiment indispensable. Il faut envoyer les reporters pour connaître le monde. Voilà. On présentera toujours des fragments de réel. Nous ne sommes pas partout, des fragments de réel. Mais ces fragments de réel, ils sont indispensables. Et surtout à notre époque.
Ma toute dernière question n'est pas facile à poser, Martine Laroche-Joubert. Je vous la pose pourtant très très sérieusement. Dites-nous, faut-il vous souhaiter de partir le plus tard possible, bien sûr, fauché debout et pas dans un lit?
Fauché debout, peut-être, disparaître, comme ça. On ne sait pas trop où.
Vous n'arrêterez jamais le reportage de guerre?
J'aimerais ne pas arrêter le reportage de guerre. Maintenant, il faut être en très bonne condition physique
mais vous l'êtes
pour
déjà,
le faire.
Je précise, parce que c'est une émission de radio et ce n'est pas une émission de télé, mais j'ai en face de moi... une personne dont il est facile de connaître l'âge et qui fait carrément 35 ans de moins que l'âge donné, n'est-ce pas, par sa carte d'identité. C'est totalement surréaliste. Donc, vous êtes en plus dans une condition physique manifestement absolument exceptionnelle et vous avez encore devant vous... Voilà.
J'aimerais ne pas arrêter si
10,
je
15,
sens
20 ans de reportage, que va-t-il se passer?
J'aimerais ne pas arrêter si je sens que je peux apporter quelque chose de plus. Si mon expertise, disons, si mon expérience sert à quelque chose.
On croit toujours en la nature humaine quand on a derrière soi 33 ans de reportage de guerre.
Oui, j'y crois. Moi, je veux rester optimiste. Vraiment, hein. Je veux le rester. C'est comme je veux rester optimiste en ce qui concerne les journalistes. Et quand je vois des reportages où il y a des journalistes d'investigation qui ont 30 ans, qui sortent des histoires, je pense à Cash Investigation, je pense à d'autres articles de presse écrite. L'année dernière, j'étais dans le jury du prix Bayeux des correspondants de guerre et j'ai lu l'article. On ne savait pas qui l'avait écrit, mais j'ai lu un article, mais dément. Le thème, c'était « Que deviennent les cadavres des mecs de Daesh ?» Franchement, tout le monde s'en fiche. Et l'article était un article tellement impressionnant, mais à la fois de justesse. C'était un article même philosophique sur la mort. Et après, nous avons appris que c'était un jeune homme de 27 ans qui avait écrit cet article. C'est bien, la relève est là. La relève, elle est là.
C'était formidable de vous écouter. Le livre a pour titre « Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre ». Merci infiniment pour ce feu intérieur, pour cette générosité. Merci infiniment. Et puis, je vous souhaite de réussir à monter cette opération de retour donc, vers Mossoul et vers Raqqa. Merci Martine Laroche-Joubert.
Retrouvez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, tous les samedis et dimanches de 15h à 16h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.